L'Hôtel-Dieu.
La grande salle des hommes avait les dimensions d'une nef de cathédrale. Au fond se dressait un autel où l'on célébrait chaque jour quatre messes, et les vêpres, et le salut. Les malades privilégiés occupaient des sortes d'alvéoles ménagées dans les murs et dits « chambres de recommandation ». Les autres étaient couchés à deux par lit, tête bêche. Des frères hospitaliers en longues robes brunes passaient sans cesse entre les travées de lit, tantôt pour aller chanter les offices, tantôt pour donner les soins ou distribuer les repas. Les exercices du culte étaient intimement mêlés à la thérapeutique. Les râles de douleur répondaient aux versets des psaumes. Le parfum de l'encens ne parvenait pas à dominer l'atroce odeur de fièvre et de gangrène. La mort était offerte en spectacle public. Des inscriptions courant autour des murs en hautes lettres ornées invitaient à se préparer au trépas plutôt qu'à la guérison. Depuis près de trois semaines, Gucho était là, dans une alcôve, haletant sous l'accablante chaleur de l'été qui rendait plus épuisante la souffrance et plus sinistre le séjour. Il regardait avec tristesse les rayons du soleil qui tombaient des fenêtres haut percées et projetaient de larges taches d'or sur cette assemblée de la désolation. Il ne pouvait faire le moindre mouvement sans gémir. Les baumes et les élixirs des frères hospitaliers le brûlaient comme flammes, et à chaque pansement, il endurait une torture. Nul ne semblait en mesure de lui dire si sa blessure avait endommagé l'os. Mais il sentait bien que le mal n'était pas seulement de chair, car il manquait de s'évanouir lorsqu'on lui palpait la hanche ou les reins. L'émir et les chirurgiens lui affirmaient qu'il ne courait aucun péril mortel, qu'à son âge on guérissait de tout, et que Dieu accomplissait en son autel bien d'autres miracles, ainsi qu'il avait prouvé sur ce calfat éventré qui s'était un jour présenté, retenant ses tripes avec les mains, et qu'on avait vu sortir après quelque temps aussi fort et gai que dans le passé. Guccio ne désespérait pas moins. Trois semaines déjà, et rien ne lui indiquait qu'il n'en faudrait pas encore trois autres avant qu'il pût se lever, ou bien trois mois, ni qu'il resterait à jamais impotent. Par moments, il s'imaginait condamné à finir ses jours tordus et béquillards, derrière un comptoir de changeurs à Marseille. Pouvait-il songer à voyager, infirme, et moins encore à se marier? Si même il quittait vivant cet affreux hôpital. Chaque matin, il voyait emporter un ou deux cadavres qui avaient déjà pris une mauvaise teinte noirâtre. N'était-ce pas la peste? Tout cela pour avoir joué les fanfarons et voulu sauter sur un quai plus vite que ses compagnons, alors qu'il venait d'échapper au naufrage. Il enrageait contre le sort et sa propre sottise. Il appelait presque quotidiennement l'écrivain et lui dictait pour Marie de Cressey de longues lettres à la fois gémissantes et enflammées qu'il faisait expédier par les courriers des banques lombardes vers le comptoir de Naufle, afin que le premier commis les remît en secret à la jeune fille. Guccio assurait Marie qu'il ne souhaitait guérir que pour le bonheur de la retrouver, de la contempler, de la chérir chaque jour des cieux. Il la suppliait de lui garder la foi qu'il s'était jurée, et lui promettait mille félicités. « Je n'ai point d'autre âme que la vôtre en mon cœur, n'en aurai jamais d'autre. » Et si elle me venait à faillir, ma vie s'en irait avec elle. Car ce présomptueux, maintenant que l'adversité le clouait sur un lit de l'Hôtel-Dieu, se prenait à douter de tout et à craindre que celle qu'il aimait ne l'attendît pas. Marie allait se lasser d'un amoureux toujours absent et lui préférer quelque gentilhomme de sa province. Ma chance, disait-il, est d'avoir été le premier à l'aimer. Mais voilà un an et bientôt six mois que nous nous sommes donné notre premier baiser. Alors que, contemplant ses jambes amaigries, il se demandait s'il pourrait jamais tenir debout, il cherchait dans ses lettres à se montrer admirable. Il se donnait pour l'intime et le protégé de la nouvelle reine de France. À la lire, on eût cru qu'il avait lui-même négocié le mariage royal. Il racontait son ambassade à Naples, la tempête, et comment il s'y était conduit, affermissant le courage de l'équipage. Son accident, il l'attribuait à un mouvement chevaleresque. Il s'était précipité afin de soutenir la princesse Clémence et la sauver de tomber à l'eau, alors qu'elle descendait du navire que secouaient jusque dans le port les remous de la mer. Guccio avait écrit également à son oncle, Spinello Tolomei, pour lui conter, mais avec moins d'emphase, son accident et lui demander du crédit à Marseille. Des visites assez nombreuses le distrayaient un peu. Le consul des marchands siennois était venu le saluer, se mettre à ses dispositions. Le correspondant des Ptolémées le comblait d'attention et lui faisait parvenir une nourriture meilleure que celle servie par les frères hospitaliers. Un après-midi, Guccio eut la joie de voir apparaître son ami Boccace de Cellino, voyageur des Bardi, qui se trouvait justement de passage à Marseille. Auprès de lui, Guccio put se lamenter à loisir.
« Pense à tout ce que je vais manquer, » disait-il. « Je ne pourrai point assister aux noces de Donna Clemenza, où j'aurais eu ma place parmi les grands seigneurs. Avoir tant fait pour ce mariage, et ne pas m'y trouver. Et je vais manquer aussi le sacre de Reims. Ah, que cela me fait deuil. Et j'ai aucune réponse de ma belle-marie. »
Boccace s'efforça de l'apaiser. Naufle n'était pas un faubourg de Marseille et les lettres de Guccio ne voyageaient pas par chevaucheurs royaux. Elles devaient transiter par les relais lombards d'Avignon, de Lyon, de Troyes et de Paris. Les courriers ne se mettaient pas en route chaque jour.
« Boccaccio, mon ami, » s'écria Guccio, « si tu te rends à Paris, fais-moi la grâce d'aller à Naufle et de voir Marie. Dis-lui tout ce que je t'ai confié. Sache si mes missives lui ont bien été remises. Vois si elle est toujours en même humeur d'amour à mon endroit. Et ne me cache aucune vérité, même la plus dure. Ne crois-tu pas, Boccaccino, que je devrais me faire transporter en litière ?
Pour que ta blessure se rouvre, que les vers s'y mettent, et pour périr de la fièvre dans quelque mauvaise auberge de la route ? Ah, la belle idée ! Es-tu devenu fou ?
Tu as 20 ans, Guccio.
Pas encore.
Raison de plus. À ton âge, qu'est-ce qu'un mois de perdu ?
Si c'était le bon mois, c'est toute la vie qui peut être perdue.